Vous écoutez RTL. RTL.
Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
J'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
RTL.
Le classique d'Ouvrard, voilà un client pour l'hôpital. Bonjour à
tous.
Bonjour à tous, on est ensemble jusqu'à 15h sur RTL. Ça va Sidonie ?
Ça va très bien Thomas, salut les curieux. Justement, on préfère ne jamais y mettre les pieds, mais on est soulagé, il faut le dire, d'y trouver des professionnels. On vous raconte l'histoire de l'hôpital.
Avec notre invité Jean-Noël Fabiani, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Bienvenue, vous êtes chef du service chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et passionné par l'histoire de l'hôpital, l'histoire de vos prédécesseurs. Alors on aime bien la sémantique dans cette émission, on va commencer par le mot hôpital. Que veut-il dire ?
Eh bien, l'hôpital, c'est un mot latin au départ, bien entendu, qui vient de hostis, c'est-à-dire l'étranger, celui qui passe, celui qui n'est pas du lieu. Alors le pèlerin, bien entendu, mais ça peut aussi être l'indigent. Autrement dit, l'hôpital n'est pas fait au départ pour les malades, il est fait un peu comme une hostellerie, ça va être un hôtel Dieu, l'hôtel de Dieu, où des clercs, en général, et des religieuses vous reçoivent pour vous accompagner pendant votre voyage.
Il a été créé quand, ce tout premier hospice à Paris ?
À Paris, c'est vers 642. Mais avant, il a été créé en France par le Concile d'Orléans, 549. Et on dit à l'Église, bah, écoutez, c'est vous qui gérez les hôpitaux, et surtout, on ne veut pas s'en occuper. Ce qui veut dire que le financement, eh bien, ne peut relever que de la charité.
D'accord, donc c'est vrai, on est vraiment dans un environnement religieux et pas encore totalement médical. Hein. On peut le dire comme ça, ça ne soigne pas beaucoup.
On peut le dire comme ça, vous savez. D'abord, il n'y a pas de médecins dans les hôpitaux, il n'y en a pas beaucoup ailleurs. Mais surtout, il n'y a pas de médecine. Il faut être clair, on est dans les années du haut Moyen-Âge. On peut simplement déjà être au chaud et manger, c'est déjà un gain pour la santé exceptionnel.
Mais qui on croise dans les couloirs de cet hospice alors ?
Des sœurs, des sœurs ou des moines. Les moines ont souvent une petite culture médicale, ils savent utiliser les simples. Les simples, ce sont les médicaments de l'époque, c'est-à-dire en fait les feuilles.
Oui.
Les feuilles qui font du bien ou qui sont purgatives, ainsi de suite. Bon. Et puis, de temps en temps, passe le barbier. Le barbier, il a un rôle à jouer, lui, parce que c'est pas le chirurgien. On n'est que barbier à l'époque. Et alors, il coupe ce qui va pas. Il coupe le doigt qui est en train de se nécroser. Il coupe l'abcès. Il coupe l'effet. Et parfois, il fait des saignées.
Voilà, mais il y aurait une mortalité terrible dans cet hospice.
On ne survivait pas longtemps.
Oui, c'est vrai. Alors, si, il y a quand même le grand salut, n'oublions pas, c'est le crucifix qui se trouve sur le mur du fond. Alors, la bonne place dans le lit, parce qu'on est 3 ou 4 dans le lit quand même. La bonne place, c'est celle qui peut voir le crucifix, parce que c'est là d'où vient le salut.
C'est au Moyen-Âge, en avançant au Moyen-Âge, que ces hospices religieux se transforment sous la pression d'un double phénomène. Il y a d'abord la démographie, c'est ça ?
Ah oui, absolument, parce que après l'an 1000, la population française triple. Et la France, qui était un pays rural, s'urbanise de plus en plus, parce que des gens qui sont pauvres, parce qu'on n'a pas assez de nourriture, eh bien vont dans les villes pour essayer de gagner leur pitance. Nous sommes bien d'accord.
Oui.
Et qui dit regroupement dit épidémie.
C'est le deuxième facteur.
Bah oui, bien sûr. Quand on est dispersé dans la campagne, il n'y a pas d'épidémie. Mais lorsque commencez à rassembler dans des villes, là peuvent naître des épidémies. Et donc l'hôpital dans une ville va prendre une importance pour s'occuper non seulement des personnes que nous avons vues précédemment, mais également des gens qui traînent dans les villes, les vagabonds en quelque sorte, et puis aussi des vrais malades, parce qu'il va bien falloir s'en occuper aussi.
Les hôpitaux étaient aussi destinés à accueillir les pauvres avec un objectif politique, c'était lequel ?
Alors, les rois, progressivement, en ont eu assez de voir tous ces pauvres qui traînaient dans les rues et qui mendiaient. Mendiaient encore ! Passe encore, comme dirait l'autre. Mais la nuit, c'était les truands. Et il n'y avait pas de lumière dans Paris. Si vous preniez dans les rues de Paris à l'époque d'Henri IV, vous avez une chance sur 10 de mourir quand même. C'est grave. C'était dangereux. Parce qu'il y a des truands. Il y a la grande truanderie. Alors, tous ces gens-là, on n'en veut plus. Où les mettre ? Où va-t-on les mettre ? Eh bien, à l'hôpital. Et c'est là que Louis XIV fait le grand renfermement, crée ce qu'on appelle le guet des archers des pauvres. Tous les soirs, il passe tout ce qui traîne, les prostituées pour les femmes, les mendiants pour les hommes, et il les emmène à l'hôpital.
Jean-Noël Fabiani, vous publiez la fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen-Âge à nos jours aux éditions Pocket. Grâce à vous, on va découvrir tout ce que nos grands hommes ont apporté à l'hôpital. Il y a Louis XIV, vous venez d'en parler, il y a aussi Napoléon, et même jusqu'à De Gaulle. On vous raconte comment ils ont les uns et les autres apporté leur pierre à l'édifice.
La curiosité est un vilain défaut.
Une journée qui ressemble à aujourd'hui. Au cours de ces 24 heures, nous serons plus d'1 million à faire appel aux services de santé. Plus de 2200 bébés vont naître.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Médecin généraliste, services d'urgence, hôpitaux, cliniques. L'accès aux soins en France est réputé pour être l'un des meilleurs au monde.
RTL.
Ça, c'est l'hôpital aujourd'hui tel qu'on le connaît. Nous, on a la curiosité de découvrir la fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen-Âge à nos jours. On est ambitieux, mais on a un invité de talent qui est capable de relever ce défi. C'est le professeur Jean-Noël Fabiani, chef du service de chirurgie cardiovasculaire et de transplantation d'organes de l'hôpital Pompidou à Paris. L'hôpital, c'est vraiment un enjeu majeur, c'est un enjeu de pouvoir et nos plus grands chefs d'État se sont penchés sur son destin, évidemment. D'abord, Louis XIV, quel rôle le Roi Soleil a-t-il joué pour le développement des hospices en France ?
Alors lui, c'est simple, il ne voulait pas que les miséreux, parce que la misère et la maladie sont souvent confondues encore à cette époque, il ne voulait pas qu'ils traînent dans les rues de Paris. Et donc, il crée deux grands hôpitaux. La Salpêtrière, pour les femmes, oh, c'est essentiellement les prostituées qui s'y retrouvent, et Bicêtre pour les hommes, grosso modo, ce sont les truands. Il restait encore à traiter, en quelque sorte, une troisième catégorie, qui étaient les soldats,
ah oui.
C'est-à-dire les amputés des guerres. Puis un gars qui monte ses moignons, qu'il a récupéré aux différentes batailles du roi, ça ne crée pas des vocations extrêmes.
Oui, mauvaise presse.
C'est mauvaise presse, comme on dit. Donc il crée les invalides. Alors, attention, c'est quand même pas des petits bâtiments, ils existent toujours, on peut les voir, aussi bien les uns que les autres, ce sont des hôpitaux formidables.
Mais en vous écoutant depuis tout à l'heure, je me dis, mais les gens, entre guillemets, normaux, hein, je mets plein de guillemets, malades, qui avaient besoin d'aller à l'hôpital, on les soignait où ? Parce que là, vous dites, il y a les indigents d'un côté, les prostituées de l'autre, les blessés de guerre, est-ce qu'ils avaient leur place dans ces hospices, dans ces hôpitaux ?
Alors, les pauvres, oui, ils vont à l'hôpital, mais les riches, non. Ils se font soigner chez eux, les bourgeois.
D'accord.
Et les riches. Et c'est là où sont les docteurs, parce qu'il y a de l'argent à gagner. Ils vont donc au domicile des gens pour les opérer. On accouche chez soi, on se fait opérer chez soi. Et d'où d'ailleurs la fameuse expression, parce qu'il fallait un plan dur pour opérer les gens, surtout au 19e siècle. Et quand le chirurgien arrivait avec sa trousse pour opérer les gens, il disait « Bon, votre lit c'est trop mou, il me faudrait un plan dur, qu'est-ce que vous avez ?»« Ah bah il y a le billard !» Et on prenait le billard.
Ça vient
d'où
là.
L'expression.
Passer sur le billard.
Passer sur le billard. D'accord. Donc, bah oui, il fallait bien un plan dur. Et le seul plan dur qu'on avait chez un bourgeois du Faubourg Saint-Germain, c'était son billard.
Jean-Noël Fabiani, de quand date la toute première faculté de médecine française ?
Alors, c'est Montpellier, évidemment. Hein, c'est au début, vers les années 1200. Pourquoi ? Parce que la médecine, qui était uniquement ce qu'on appelait monastique à un moment, c'était les moines qui la tenaient, eh bien, elle va devenir scolastique. C'est-à-dire qu'on va commencer à enseigner. Et tout ça, ça suit en fait ce qu'on appelle la Reconquista espagnole, où il y avait la grande ville de Cordoue, où il y avait les juifs, les chrétiens, les arabes, qui faisaient vraiment l'intelligence du temps, qui se trouve dispersée. Et bien sûr, Montpellier, c'est pas loin de l'Espagne. On crée la première grande faculté.
Et c'est une première mondiale ?
Non, parce que les Italiens aussi ont une grande faculté qui est Bologne. Et entre Bologne d'un côté et Montpellier de l'autre, se trouve véritablement le centre intellectuel de l'Europe de l'époque.
Alors, on parle des grands hommes, on a dit que Louis XIV avait joué un rôle central pour l'hôpital. Et Napoléon, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il décide ?
Alors, Napoléon, il trouve une situation épouvantable, parce que la Révolution a tout détruit. Ah oui. Pourquoi ? Parce que les hôpitaux, je vous l'ai dit, c'était les religieux. On vire les religieux des hôpitaux. Qu'est-ce qui reste ? Personne. Parce qu'il n'y avait pas de médecins. Et puis les hôpitaux, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, Saint-Just a une très bonne idée. Il dit, on va les vendre. On va les vendre comme biens nationaux. Donc, quand Bonaparte arrive, il n'y a plus d'hôpitaux en France et il n'y a plus de médecins, grosso modo. Alors,
qu'est-ce qu'il décide de faire ?
À la Napoléon, d'ailleurs à la Bonaparte. Et il appelle Chaptal, qui est son ministre de l'Intérieur. Et écoutez, il me faut des hôpitaux. Chaque ville, chaque maire sera responsable de son hôpital dans sa ville. Il l'est toujours aujourd'hui.
C'est-à-dire que l'organisation napoléonienne, elle tient toujours.
Absolument. C'est toujours le maire de Paris qui est responsable de l'assistance publique des hôpitaux. Je vous le dis au passage. Puis on lui dit, mais des médecins, il n'y en a pas. Il dit, pas de médecin, mais il faut des médecins. Et il a l'idée géniale de créer un concours où seuls les meilleurs pourront aller à l'hôpital. C'est l'internat des hôpitaux. Il crée ça, et grâce à cela, il va ramener les médecins vers l'hôpital.
Et puis aussi une patientèle différente.
Alors, oui et non. Vraiment des malades, c'est vrai, ouais. Beaucoup moins de pauvres, une patientèle différente, mais véritablement, tout le 19e siècle, ce sera encore les pauvres qui seront à l'hôpital.
L'hôpital, c'est un lieu d'invention, de première médicale. On en découvre quelques-unes tout de suite sur RTL.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. Pardon de m'immiscer, les petits curieux. Je profite de ce podcast pour vous inviter à nous rejoindre, moi et ma petite bande, pour À la bonne heure, dès 11h sur RTL. Un invité tous les jours, du rire, des infos étonnantes et le plein de bonne humeur. Avant de passer à table, ce serait dommage de rater ça, non? Allez, à vous Thomas et Sidonie.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Toujours avec le professeur Jean-Noël Fabiani qui nous fait découvrir la fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen-Âge à nos jours. C'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Pocket. Et le sous-titre, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, une expression sur laquelle on va revenir tout de suite. Vous nous avez déjà appris que l'expression « passer sur le billard » venait effectivement de l'époque où les riches, les bourgeois, se faisaient soigner chez eux et que le médecin en arrivant voulait un plan dur. Et il cherchait quoi? Et il trouvait quoi? Le billard. Alors, l'hôpital qui se fout de la charité, ça vient d'où cette expression?
Eh bien, c'est une métonymie, comme on dit, n'est-ce pas, dans la compréhension de la langue française. Oui, parce que Saint-Vincent de Paul crée les Sœurs de la Charité. Et les Sœurs de la Charité et les Frères de la Charité font des hôpitaux qu'on appelle des charités. Autrement dit, au XVIIe siècle, une charité ou un hôtel-dieu, c'est la même chose. Autrement dit, quand l'hôpital soit mal loti, c'est vrai, les charités le sont. Mmh. Quand on dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité, on dit c'est exactement la même chose. Mmh. Et voilà d'où vient l'expression.
D'accord. Et l'hôpital, un petit peu d'actu, l'hôpital français aujourd'hui, il va comment? Parce qu'il y a ce mouvement, la balance non hosto, il y a pas mal de protestations.
Bien entendu, l'hôpital subit actuellement une crise de croissance. Mmh. Mais je voudrais quand même que dans toute cette affaire, les Français se rendent compte que notre système hospitalier, avec ses défauts, qu'il ne faut pas nier, est quand même un des systèmes les meilleurs du monde.
Ça reste un des systèmes les meilleurs du monde.
Bien sûr. Oui. Ne serait-ce que dans sa qualité de soins et aussi dans la justesse des soins qui sont donnés à tous les Français. Que vous soyez clochard ou président de la République, vous êtes soigné de la même façon, actuellement dans un hôpital de l'assistance publique des hôpitaux. Donc, vous savez, il n'y a pas beaucoup de pays au monde, quand je dis il n'y a pas beaucoup de pays au monde, il n'y a aucun pays au monde où on a une telle justice vis-à-vis des soins. Ça nous coûte cher, mais enfin, c'est un choix comme un autre, et à mon avis, on a plutôt à en être fier.
Jean-Noël Fabiani, l'hôpital c'est aussi un lieu d'invention, par exemple. Que peuvent lire les passants à proximité de l'hôpital Necker?
Alors, à proximité de l'hôpital Necker, ils pouvaient voir l'effigie de la Hennec. Je dis, ils pouvaient parce que ça vient d'être refait, l'hôpital a été reconstruit. Mais on pouvait voir la tête de la Hennec. La Hennec, c'est l'inventeur du stéthoscope. Or, la Hennec, c'était un monsieur, très bon médecin, mais un peu prude. Et un jour, il doit ausculter une dame qui est un peu grosse, mais qui est surtout toute très habillée, et il n'ose pas lui demander de se déshabiller. Alors, il écoute, et bon, parce qu'à l'époque, on est ausculté en mettant l'oreille directement sur la poitrine. Alors, il n'ose pas. Et
il n'entend rien.
Ben oui, c'est normal. Au 19e siècle, on est prude, hein, attention. Donc, il dit, oh, il faut que je trouve quelque chose. Alors, il se promène le soir dans Paris et il voit des gosses sous les guichets du Louvre qui jouent avec une poutre. Et ils grattent la poutre d'un côté et les autres, le bout de la poutre, ils écoutent et ils entendent le gars qui avait gratté. Et l'idée, bingo, j'ai trouvé. Et le lendemain, il arrive, il demande à la bonne sœur qui l'accompagne de prendre les feuilles, il en fait un cornet et il met le cornet sur la poitrine de la dame et l'autre bout, bien sûr, à son oreille et il entend son cœur.
Et René Laennec invente
le stéthoscope.
Ah oui, et l'auscultation aussi.
Et l'auscultation. Ah oui. C'est, avant, on auscultait, mais simplement directement. Oui. On mettait l'oreille directement sur la poitrine. Il invente l'auscultation qui est la stéthacousie médiate, c'est-à-dire avec, à haut moyen d'un outil. Alors, au départ, ça n'est qu'un tube de bois, donc pour médecin qui n'a qu'une oreille, mais rapidement, on comprend que les médecins ont deux oreilles, et on va inventer un stéthoscope avec deux embouts pour les deux oreilles.
Et la vaccination, Jean-Noël Fabiani, malheureusement, on parle pas mal de la rougeole en ce moment, avec une multiplication de cas en Nouvelle-Aquitaine, une femme qui est morte à Poitiers. La vaccination, ça vient d'où? Qui l'utilise? Qui la popularise, en quelque sorte?
C'est la grande œuvre, bien sûr, du 19e siècle. C'est d'abord Jenner qui s'aperçoit que les femmes qui sont des laitières ne font jamais la variole et qui a l'idée d'inoculer la maladie de la vache à l'homme parce que vaccination, ça vient de vaca, de vaccination. Donc, c'est la première vaccination, c'est celle de Jenner. Bon, et qui va permettre de supprimer cette horrible maladie qui a été la plus grande tueuse de l'histoire, qui est la variole. Et puis Pasteur, quand même, Pasteur, c'est un monstre. Il est de chez nous, Pasteur. Et qui va inventer la vaccination. Il reprend le même mot, d'ailleurs, même s'il n'y a plus de vaches dans l'affaire. Mmh. Et ils vont inventer, Pasteur et les pasteuriens et tous ses élèves vont inventer les vaccins de presque toutes les grandes maladies. Ça a entraîné une décroissance absolument considérable chez les enfants en particulier de la mortalité infantile, il faut être clair. Et donc c'est un progrès considérable qu'on remette en question au prétexte qu'il peut y avoir parfois, comme toujours en médecine, un certain nombre de problèmes et de problèmes secondaires, qu'on remette en question la vaccination, mais c'est une aberration de l'esprit.
Donc vous défendez le programme de vaccination, on l'a bien compris,
relancé par la ministre de la Santé. Bien entendu.
Allez, on va raconter l'histoire du chloroforme dans un instant. Restez avec nous sur RTL. Et puis, autre thème dans cette émission,
le
régionalisme. Moi, je dis plutôt pain au chocolat, mais pendant longtemps, j'ai dit pain au chocolat, j'ai dit chocolatine.
C'est
parce
gourmand,
que j'étais
ça, chocolatine, mais moi, j'ai pain au chocolat aussi.
Ça peut être de très très belles histoires, les urgences. Tout n'est pas dramatique chez nous, heureusement.
Vous voyez des choses très dures, des accidentés, vous assistez à la mort de gens.
La curiosité est un vilain défaut.
Les urgences, c'est quand même très très spécial, avec une dose de stress et d'agitation plus importante qu'ailleurs.
Et finalement, c'est une discipline aussi qui est remplie d'émotions.
RTL.
Moi, le métier qu'ils me font, jamais je pourrais le faire.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et on sort des urgences, on est toujours avec le professeur Jean-Noël Fabiani qui nous raconte l'histoire de l'hôpital sur RTL. On voulait parler du chloroforme, tiens, pour terminer cette première partie d'émission. Dans quelles conditions fait-il son apparition, le chloroforme? À quelle époque?
C'est au 19e siècle, c'est un certain Simpson qui est un Écossais, accoucheur, qui a l'idée d'utiliser le chloroforme plutôt que l'éther. Parce que quand on est accoucheur au 19e siècle, la nuit, quand on accouche la nuit, c'est avec des bougies qu'on s'éclaire. Alors l'éther, c'était quand même pas le meilleur produit.
C'est dangereux.
C'est un peu dangereux. Donc il trouve ce produit, c'est le chloroforme, il l'essaye sur lui-même, on croit qu'il est mort, mais pas du tout, il se réveille, tout va bien. Et il dit, voilà le médicament qui va me permettre de faire accoucher les femmes sans douleur. Mais là, il se heurte, bien entendu, à la religion, qui dit, il est écrit dans la Bible, tu accoucheras dans la douleur. Et bien entendu, d'emblée, c'est refusé par l'Église.
Et qui va permettre le développement de ce chloroforme et la future péridurale?
Eh bien, la reine. Reine Victoria. Elle en était à son 7e quand même. Bon,
elle avait bien souffert.
Quand même, bon. Et elle demande à accoucher sous chloroforme. Et elle dit, oh, j'ai été bien, j'ai jamais été aussi bien. J'étais très, très bien. Mais c'est très important qu'elle ait fait ça. Pourquoi? Certes, elle est reine d'Angleterre. Certes, elle est impératrice des Indes. Mais elle est aussi chef de la religion anglicane. Oui. Et en tant que chef religieux, elle donne l'impulsion à tous les anglo-saxons, finalement, en disant « ça sera beaucoup plus loin en France. Il faudra attendre presque un siècle pour que l'accouchement sans douleur soit correctement accepté dans notre propre pays. »
Merci beaucoup Jean-Noël Fabiani, vous êtes non seulement un grand médecin mais aussi un conteur merveilleux, c'était un bonheur de vous avoir dans la curiosité. Vous reviendrez quand vous voulez, la fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen-Âge à nos jours, c'est aux éditions Pocket.